VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, au micro Camille Grosdidier et Anne Arbutson. Au sommaire, en ce lundi 15 juin 2015.
Un tribunal sud-africain se prononce aujourd'hui sur une requête de la Cour pénale internationale qui a demandé à l'Afrique du Sud d'arrêter le président du Soudan.
L'Algérien Mokhtar Belmokhtar aurait été tué lors d'une opération aérienne menée par les États-Unis en Libye, affirme le gouvernement libyen.
Relative accalmie au Burundi, mais la crise des réfugiés persiste.
En fin de semaine dernière, les autorités rwandaises parlaient de 26 000 réfugiés, hommes, femmes et enfants, qui sont arrivés ici depuis fin avril.
Notre envoyé spécial, Bagassi Koura, nous en dira plus.
Bamako vient d'accueillir un atelier d'échange sur le rôle de la MINUSMA au Mali et le retour à une paix définitive dans le pays.
L'occasion était bonne pour le président de la République du Mali d'annoncer les couleurs de la cérémonie de signature de la CEMA le 20 juin prochain.
On suivra le compte-rendu de Kassim Traoré.
Mais pour commencer, le journal.
En Afrique du Sud, un juge a enjoint hier les autorités d'empêcher le président soudanais Omar al-Béchir de quitter le pays après que la Cour pénale internationale eut demandé à Pretoria de l'arrêter. Monsieur al-Béchir est venu à Johannesburg pour assister au sommet de l'Union africaine. Des précisions avec Idrissa Sedoudia.
C'est la première fois que la justice d'un pays africain tente d'empêcher un chef d'État en exercice de quitter son territoire en réponse à une demande de la CPI. Pour citer l'injonction du juge Hans Fabricius, le président soudanais Omar al-Béchir ne pourra pas quitter la République d'Afrique du Sud jusqu'à ce que le jugement définitif soit rendu dans cette affaire et les autorités sont priées de prendre toutes les mesures nécessaires pour l'en empêcher. Le juge a ensuite renvoyé l'audience à 11h30 aujourd'hui, soit 9h30 temps universel. Malgré tout, M. al-Béchir, poursuivi pour crimes de guerre et génocide au Darfour, a pris place en début d'après-midi au premier rang des chefs d'État pour la photo du groupe. Les observateurs doutent que Pretoria retienne M. al-Béchir contre son gré.
Les États-Unis ont exprimé leur profonde préoccupation face au déplacement effectué par M. al-Béchir en Afrique du Sud. Dans un communiqué, le département d'État américain a déclaré que les États-Unis soutiennent fermement les efforts internationaux pour poursuivre les auteurs de génocides, de crimes contre l'humanité et crimes de guerre. À la lumière des atrocités commises au Darfour, nous appelons le gouvernement d'Afrique du Sud à soutenir les efforts de la communauté internationale pour rendre justice aux victimes de ces crimes odieux, ajoute le département d'État.
L'Algérien Mokhtar Belmokhtar aurait été tué dans une opération aérienne menée par les États-Unis en Libye. C'est ce qu'a annoncé dimanche le gouvernement libyen, reconnu par la communauté internationale.
Auparavant, le Pentagone avait déclaré que l'armée de l'air américaine avait mené samedi soir une frappe réussie contre une cible liée à Al-Qaïda en Libye. Le département d'État américain avait mis la tête de Belmokhtar à prix, faisant miroiter une récompense de 5 millions de dollars. Il était accusé d'être le cerveau du commando qui a attaqué la plateforme pétrolière algérienne d'In Amenas en janvier 2013. L'attentat avait coûté la vie à 37 personnes, dont 3 Américains.
Les corps de 18 migrants, probablement morts de déshydratation, ont été découverts dans le désert du Sahara, dans le nord du Niger, selon l'Organisation internationale pour les migrations.
Dans un communiqué, le chef de mission de l'OIM au Niger, Giuseppe Loprete, a précisé que les migrants sont morts début juin après qu'une tempête de sable leur ait fait perdre leur chemin. Ils étaient partis d'Arlit, dans le nord du pays. Les victimes, 17 hommes et une femme, étaient presque tous originaires de pays d'Afrique de l'Ouest.
Politique américaine, Jeb Bush, fils et frère des 41e et 43e présidents, doit annoncer ce lundi qu'il briguera l'investiture du Parti républicain à l'élection présidentielle de 2016. Il a lancé il y a 6 mois une pré-campagne pour les primaires républicaines, levant des fonds et multipliant les déplacements et discours.
Il devrait officialiser sa candidature lundi à Miami lors d'un discours, a-t-il dit à la chaîne NBC. Et puis la Grèce demeure ouverte à la conclusion d'un accord et elle est prête à combler son déficit budgétaire comme le lui demandent ses créanciers, mais sans réduire les retraites ni augmenter les impôts, a indiqué le vice-premier ministre grec après l'échec des négociations tenues ce week-end à Bruxelles.
Les propositions de réforme présentées par la Grèce demeurent insuffisantes et la décision définitive sur un éventuel défaut du pays sur sa dette appartient désormais à l'Eurogroupe qui doit se réunir jeudi, a annoncé pour sa part la Commission européenne.
Ouverture à Genève de pourparlers de paix entre les parties qui s'affrontent au Yémen sous l'égide des Nations Unies. Ces discussions visent à mettre un terme au conflit qui dure depuis 2 mois et qui a coûté la vie à près de 2600 personnes et d'éviter une partition permanente du pays.
Mais les combats se sont poursuivis ce week-end et les combattants chiites, houthis et leurs alliés se sont emparés dimanche de la capitale d'une province du Yémen, jouxtant la frontière saoudienne, signale l'agence Reuters.
Et maintenant, la Minute Éco avec Jean-Roger Bion.
Le directeur du Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, le CPC, Emmanuel Essis, est en liste pour le poste de représentant régional de WAIPA, World Association of Investment Promotion Agencies. Pour ce qui concerne la zone Afrique subsaharienne, l'élection du représentant régional de WAIPA, zone Afrique subsaharienne, est prévue ce lundi à Milan, en Italie. Outre la candidature ivoirienne, on annonce celle du Cameroun. Air France va bientôt reprendre ses vols à destination de Freetown, la capitale de la Sierra Leone, annonce le responsable de la compagnie. Dans un communiqué, la compagnie française a indiqué que le premier vol devrait atterrir le 30 juin à Freetown et que chaque semaine, 3 vols vont desservir la capitale sierra-léonaise et Paris. L'année dernière, Air France avait suspendu ses vols vers la Sierra Leone au plus fort de l'épidémie de la fièvre Ebola. La compagnie aérienne ASKI, basée au Togo, a atteint le seuil de 2 millions de passagers transportés sur ses lignes depuis le début de ses dessertes en 2010. La compagnie ASKI, créée par l'homme d'affaires et ancien ministre togolais Gervais Diondo, dessert actuellement 22 destinations à travers 19 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre, avec 150 vols pour 10 000 passagers chaque semaine. La compagnie, d'après APA, a récemment signé avec Air Burkina un accord de partenariat en vue de renforcer leur réseau. L'objectif est d'offrir aux voyageurs plus d'opportunités, plus de destinations avec un réseau élargi, plus de facilité et de ponctualité, davantage de fréquences.
Et maintenant, les sports avec Élisée Ungpatin. Bonjour.
Bonjour Camille.
Première journée des éliminatoires de la CAN 2017. 26 matchs ont eu lieu le week-end écoulé.
Et les favoris se sont tous imposés. Le Cameroun 1-0 face à la Mauritanie. Du Sénégal 3-1 devant le Burundi. L'Algérie, large victoire 4-0 contre les Seychelles. Ou encore le Ghana 7-1 de l'île Maurice. Une exception, la Guinée-Conakry battue par le Swaziland score 2-1 à Casablanca. Où le match a été délocalisé en raison du virus Ebola. Contre-performance également de la Guinée équatoriale, quatrième de la dernière CAN, accroché à domicile par le Bénin, 1-0. De l'Afrique du Sud, 0-0 devant la Gambie. Score identique pour la Zambie face à la Guinée-Bissau. Dans ce même groupe, le Congo-Brazza n'a mieux fait que 1-0 face au Kenya.
Et par contre, l'autre Congo a tenu son rang.
Oui Camille, troisième de la dernière CAN, les Léopards ont dominé Madagascar 2-1. Le résumé du match avec Thierry Kambundi de Top Congo FM à Kinshasa.
Entré timidement dans le match, malgré le soutien inconditionnel de leur public, les Léopards de la RDC terminent la première mi-temps sans cadrer la moindre frappe. La faute à une équipe malgache très bien en place qui les empêche de poser leur jeu. Il a fallu l'entrée de Moubele Ndombe Firmin dès la reprise pour que l'attaque de la RDC se retrouve du mordant. C'est d'ailleurs l'attaquant de l'ASV Club qui va ouvrir le score à la 58e minute, reprenant parfaitement du droit un centre de Yannick Bolassi. Réveillé par ce but et poussé par un stade Père Raphaël totalement acquis à sa cause, le 11 congolais va doubler la mise à la 73e minute par Joël Kimwaki. Mais à 2-0, les Congolais se relâchent et prennent sur un contre un but à la 77e œuvre de Ramanama Efa. Le score en restera à 2-1 au coup de sifflet final. Florent Ibengue, le sélectionneur des Léopards de la RDC, content de la victoire, salue tout de même la belle prestation des Baréas de Madagascar.
Ça fait 3 points. J'aurais voulu avoir un score beaucoup plus important pour le goal average, mais les 3 points étaient beaucoup plus importants aujourd'hui parce qu'on se rend compte que quand on rentre très mal dans une compétition, on a des soucis. L'an dernier, on a raté notre premier match contre le Cameroun. Ça a été la galère pour revenir. L'équipe malgache était bien en place et nous, on devait mettre justement beaucoup de vitesse. Cette équipe-là, elle vient de jouer 6 matchs en moins d'un mois. Ça veut dire qu'il y a des automatismes très forts qui sont en eux.
Côté malgache, le sélectionneur principal Hervé Arsène salue la victoire logique selon lui des Léopards de la RDC, mais il reste convaincu que son équipe va jouer les troubles faits dans ce groupe.
C'est logique qu'on a perdu contre le meilleur, mais en tout cas, on a essayé de faire le maximum pour avoir le meilleur résultat possible. Mais malgré ça, je pense qu'ils se sont quand même créés beaucoup d'occasions. Donc même si on a bien joué, mais on a encore, à mon avis, beaucoup d'efforts pour essayer d'élever encore un peu plus notre niveau pour essayer de se confronter avec les grandes nations comme le Congo.
Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
La RD Congo partage la première place du groupe avec l'Angola, vainqueur de la République centrafricaine 4-0. Dans le groupe D, le Burkina Faso et l'Ouganda sont sortis vainqueurs de leurs adversaires respectifs, les Comores et le Botswana, sur le même score 2-0.
Notons également le bon comportement du Nigeria, de l'Égypte, du Maroc et de la Tunisie.
Le Nigeria, dans le groupe G, s'est imposé difficilement face au Tchad 2-0, ce qui profite à l'Égypte, leader du groupe à la différence de but, puisque vainqueur 3-0 de la Tanzanie. Le Maroc, qui a peiné pour battre la Libye 1-0. Plus facile, c'est dans le groupe A où la Tunisie a réalisé le plus lourd score de cette journée, 8-1 contre Djibouti. Ce groupe A, qui a d'ailleurs vu la victoire du Togo dans la douleur contre le Libéria grâce à Adebayo, comme nous l'explique ici Kai Lawson à Lomé.
2-1, c'est le score qui a sanctionné la rencontre Togo-Libéria. Malgré la défaite, l'entraîneur libérien se dit satisfait du jeu produit par les Leon Stars. James Deba.
I'm not disappointed with my players.
Je ne suis pas déçu par mon équipe. Mon équipe a très bien joué. J'accepte la défaite de cet après-midi. Il y a des fois, vous vous contentez de ce qui vous arrive. Comme vous le savez bien, nous avons perdu. Mais il y a le match retour au Libéria et nous sommes confiants.
This is football. I accept the defeat.
Le Togo a eu une dure première mi-temps. Ce n'est que dans la seconde partie que les éperviers ont pu égaliser et le but de la victoire était marqué par Adebayo Chehi à 3 minutes de la fin du temps réglementaire. Tom Saint-Fiette, le coach togolais.
Pour moi, le premier mi-temps, on n'a pas joué perfect, mais on a joué pas mauvais. En deuxième mi-temps, on a joué plus offensif. Maintenant, nous avons 3 points. Les 2 mois suivants, on doit penser pour une équipe contre Djibouti, mais les 3 points sont plus importants.
Le Libéria estime que le corps arbitral a contribué à sa défaite à Lomé. Zach Angar, le capitaine libérien.
It's a shame to Africa.
C'est une honte pour le football africain que les officiels ont pu commettre de telles erreurs. Il y a eu une ou deux fautes qui ont fait que cet après-midi, ça n'a pas tellement marché, mais nous sommes sûrs qu'au match retour au Libéria, nous allons renverser la
vapeur.
Cette performance togolaise en première journée des éliminatoires devrait donner de l'espoir aux supporters quant aux chances du pays d'être présent au Gabon en 2017. Mais Adebayo Chehi jette du froid sur cette victoire.
Il y a eu beaucoup de problèmes avant le match. Mais heureusement qu'on a pu gagner le match, c'est le plus important. Maintenant, on va essayer de régler nos problèmes et essayer d'aller vers l'avant. Sinon, ça va être très, très difficile de se qualifier.
Kay Lawson, Lomé pour La Voix de l'Amérique.
Pour le reste, belle performance réalisée par le Cap-Vert, 7-1 devant Sao Tomé. L'Ouganda qui sort vainqueur de sa confrontation face au Botswana 2-0. Du Niger 1-0 devant la Namibie. Le Soudan qui a battu la Sierra Leone 1-0. Et même score pour le Rwanda en Mozambique.
Mondial Junior Nouvelle-Zélande 2015, eh bien l'Afrique sera présente en demi-finale.
Il s'agit du Mali et du Sénégal qui ont obtenu leur qualification en écartant respectivement l'Allemagne au tir au but et l'Ouzbékistan 1-0. En demi-finale donc, le Sénégal jouera mercredi prochain le Brésil et le Mali la Serbie. Et puis, basketball, Camille, avec vous, le résultat du match numéro 4 de la grande finale NBA entre les Cavaliers de Cleveland et les Warriors de Golden State.
Stephen Curry a marqué 37 points et les Warriors de Golden State ont pris les devants 3-2 dans la série finale de la NBA en l'emportant 104-91 face aux Cavaliers de Cleveland dimanche. Les Warriors peuvent gagner leur premier championnat depuis 1975 avec une victoire mardi à Cleveland. Le 7e match, si nécessaire, sera présenté à Oakland vendredi.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Ici Washington, Camille Grosdidier pour vous présenter les dossiers du jour. Ces derniers jours, une relative accalmie règne au Burundi, mais elle n'a pas empêché des centaines de Burundais de fuir pour trouver refuge dans les pays voisins. Notre envoyé spécial Bagasikura s'est rendu dans le camp de Mahama. Voici son reportage.
Leur nombre ne fait que grossir jour après jour. En fin de semaine dernière, les autorités rwandaises parlaient de 26 000 réfugiés, hommes, femmes et enfants qui sont arrivés ici depuis fin avril. Ruth Niyongere, une mère de famille, explique que la situation dans son village était devenue trop insupportable.
Nous avons fui à cause des Imbonerakure. Ils nous ont torturés, intimidés et le gouvernement leur a fourni des armes et des grenades.
Terence Zorabonayo s'est dit président des réfugiés de Mahama. Il explique que les gens qui débarquent ici ont tous des histoires similaires.
Ils vivaient la situation d'intimidation, d'agression et de menace par les jeunes Imbonerakure, les milices de parti au pouvoir, le CNDD-FDD.
Les premiers réfugiés sont arrivés ici le 23 avril et chaque jour, ou presque, des centaines d'autres se présentent à la frontière avant d'être conduits en bus jusqu'ici par les autorités rwandaises en coordination avec les organisations humanitaires. Kef Doumtra est l'un des responsables du HCR, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Il explique qu'il faut plusieurs jours pour installer les nouveaux arrivants.
Ils passent une nuit dans une baraque. Ils prennent leurs affaires et se dirigent vers l'autre côté du camp, où ils passeront les prochains jours dans une baraque communautaire pendant que nous construisons leur baraque familiale. C'est le problème que nous avons. Les gens arrivent en grand nombre et il nous faut quelques jours pour les installer dans le camp sous une tente familiale.
It takes us a few days to get them situated in the camp. With their family tent.
85 nouveaux-nés ont été enregistrés dans le camp de Mahama en fin de semaine dernière et les mineurs constituent une grande proportion des 26 000 réfugiés, comme nous l'explique Jeff Doumtra du HCR.
Many teenagers, especially young males.
Beaucoup d'adolescents, surtout les garçons, fuient le Burundi pour venir ici. Beaucoup d'entre eux viennent seuls ou en petits groupes, sans leur famille, sans leurs parents. Donc, nous avons beaucoup de mineurs non accompagnés, séparés de leurs familles.
Même si la tension a un peu baissé ces derniers temps au Burundi, à Mahama, personne pour l'instant ne parle de retourner au pays. Terence Zorabonayo, président des réfugiés.
Aujourd'hui, nous observons les mouvements massifs venant de Bujumbura, d'autres localités de province, dans les petites villes. Et cela nous montre qu'il n'y a pas de sécurité dans notre pays, il n'y a pas de paix dans notre pays, raison pour laquelle nous ne devrons pas quitter le pays d'asile.
Pour s'installer dans la durée, on annonce la construction de nombreux logements permanents pour les réfugiés et dans les semaines à venir, le site de Mahama va doubler de superficie. Bagasikura, de retour du camp des réfugiés de Mahama au Rwanda pour VOA Africa.
Ici Washington, Camille Grosdidier avec vous. Bamako vient d'accueillir un atelier d'échange sur le rôle de la MINUSMA au Mali et le retour à une paix définitive dans le pays. La rencontre a impliqué le président Ibrahim Boubacar Keïta, le président du Haut Conseil islamique El Hadj Mahmoud Diko et l'archevêque de Bamako, Monseigneur Jean Zerbo, entre autres dignitaires. D'autres précisions avec notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
Cette rencontre de deux jours sur le rôle de la MINUSMA est à saluer, selon le président de la République du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta.
Un atelier comme celui vient à son heure pour aider à dissiper les méprises, les malentendus, pour que la mission soit comprise pour ce qu'elle est, pas plus, pas moins. Et cette idée d'un forum sur la mission de la MINUSMA et son rôle dans un processus de paix comme celui en cours au Mali était indiqué pour une meilleure compréhension.
Aubaine pour le président du Haut Conseil islamique de clarifier l'immixtion des leaders religieux musulmans dans la gestion des affaires politiques. Imam Mahmoud Diko.
Cette implication des hommes de la foi dans la gestion des questions d'intérêt général est un legs ancestral. Tous ont défendu, souvent au prix de leur vie, l'honneur et la dignité de cette grande nation que le Mali. Le Haut Conseil islamique du Mali, je dis, ne se trompe pas du tout du rôle, ni du combat, ni d'adversaire. Notre rôle, nous le savions, on ne confond jamais le rôle.
La MINUSMA connaît des difficultés dans le respect de son mandat et la bonne exécution de son rôle. Arnold Akoudjenou, numéro 2 de la MINUSMA.
La MINUSMA se heurte à des contraintes majeures, géographiques, logistiques et de ressources, ce qui entraîne nécessairement des arbitrages difficiles. Ces arbitrages sont parfois incompris ou source de tensions. De la part, non seulement des partis, mais également et surtout des populations. La MINUSMA, c'est vrai, doit faire des choix. Elle doit faire des choix qui s'inscrivent toujours dans une même logique.
L'occasion était bonne pour le président de la République du Mali d'annoncer les couleurs de la cérémonie de signature de la CEMA le 20 juin prochain. Ibrahim Boubacar Keïta a rendu hommage aux soldats de la MINUSMA qui sont tombés au Mali.
Des hommes venus du monde entier y ont laissé leur vie, souvent parmi les plus jeunes de ceux commis à cette mission-là. Nous leur savons gré et nous leur serons toujours gré. Nous avons l'espoir très fort que le 20 juin, ici même à Bamako, en ce lieu même, nos frères qui ne l'avaient pas encore fait viendront apposer leur signature au bas de l'accord de paix. Le reste devra suivre, qui ne sera pas aisé, qui ne sera pas facile, qui ne sera pas de tout repos, pour lequel également nous aurons besoin encore de l'accompagnement et de l'aménagement et de l'ensemble de la communauté internationale, lequel accompagnement nous a jamais fait défaut au long de cette crise.
Les recommandations de cette rencontre de deux jours doivent servir de support pour les leaders religieux musulmans dans la sensibilisation de leurs adeptes et disciples. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Au Bénin, les déclarations de candidature commencent en vue de l'élection présidentielle prévue en février 2016. Un fonctionnaire de la francophonie vient d'annoncer son intention de briguer le fauteuil de la Marina avec comme priorité d'action la lutte contre la corruption. Notre correspondant à Cotonou, Peggy Ludovic Bagda, nous en dit davantage.
La présidentielle béninoise de 2016 reçoit déjà ses candidats. Après l'ancien garde des Sceaux de Bonigaï, Victor Topanou, qui a déclaré ses intentions de briguer la magistrature suprême au lendemain de 2011, voici un ancien fonctionnaire de la francophonie qui embouche la même trompette. Daniel Eda est son nom.
Ma candidature, votre candidature, notre candidature est une offre politique pour la paix et la réconciliation, sur fond de vérité et de justice. Notre candidature est l'alternative sûre pour mettre fin aux conflits personnels en cours et éviter à notre pays l'embrasement, le chaos programmé.
Son cheval de bataille sera la corruption qu'il compte vaincre par tous les moyens. Pour cela, il pense renforcer les institutions de contre-pouvoir et celles spécialement mises en place pour la lutte contre la corruption en leur donnant plus de moyens. Par exemple, libérer la justice de l'emprise des politiques et lui assurer ainsi plus de liberté pour agir et sanctionner. Mais il ne s'arrête pas en si bon chemin. Daniel Eda.
Réformer l'inspection générale de l'État dans ses missions de conseil, de soutien et surtout d'investigation des structures publiques pour une gestion transparente et efficiente. Allouer un budget annuel de 1 milliard de francs CFA pour soutenir les activités des organisations de la société civile qui luttent contre la corruption et l'enrichissement illicite. Car il est anormal que ce soit uniquement les partenaires ou principalement les partenaires qui soutiennent les acteurs de lutte contre la corruption dans notre pays. Allouer une aide annuelle de 3 milliards de francs CFA aux médias et journaux privés, dont un tiers pour soutenir le journalisme d'investigation contre la corruption, un tiers pour la formation et l'équipement, un tiers pour sécuriser tous les détenteurs de cartes de presse à travers l'octroi d'indemnités mensuelles. Soutenir la production artistique axée sur l'information et l'éducation des masses populaires contre la corruption et l'enrichissement illicite avec une dotation budgétaire annuelle de 1 milliard de francs CFA. Enfin, doter chaque député à l'Assemblée nationale d'une provision budgétaire de 50 millions de francs CFA par an pour l'habiliter à garder son autonomie et répondre aux sollicitations dans sa circonscription électorale à travers la réalisation de projets concrets sans verser dans les malversations liées au marché public.
Si on peut prêter l'intention à plus d'une vingtaine de personnalités béninoises d'être animées de la même volonté, Daniel Eda, lui, laisse tomber le masque et fixe ses compatriotes sur ses réelles intentions. Peggy, Ludovic Dagbar, Cotonou, VOA Afrique.
Ici Washington, au Burkina Faso, le Larlé Naba, chef traditionnel et ambassadeur de l'initiative Lutte contre la pauvreté du PNUD, a lancé son projet 35-5. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, sur environ 100 postulants, le projet a retenu pour sa phase pilote une quarantaine de personnes. Elles vont bénéficier d'un kit composé de 35 poules, 5 coques, la construction d'un poulailler à 5 compartiments avec un coq pour 7 poules. Et selon le promoteur du projet, l'impact économique est certain. Je vous propose de suivre ce reportage de Zoumana Wonogo, notre correspondant à Ouagadougou.
35 poules contre un coq dans un poulailler ou modèle 35-5. Rien de spécial, pense-t-on. Seulement voilà, quand le promoteur explique son idée, on voit qu'il y a derrière une vraie manne financière, suivant les implications économiques du 35-5 avec le Larlé Naba Tigré.
La poule pond toujours 12 à 13 œufs tous les 15 jours. Une poule de race locale. Mais près de 4 peuvent ne pas être des poussins, donc j'ai estimé à 9 par poule. 9 multiplié par 7, vous avez 63. Parce qu'il y a 7 poules dans la cage. Les 63 multipliés par 5, ça fait 315. Quand on estime que sur la place du marché, on vend les coquelets ou les coques de 3 mois et demi à 2500 francs, moi j'ai ramené ça à 2000 francs par coque. 2000 francs multiplié par 315, vous avez 630 000. Après le cinquième mois, les 630 000 là, vous pouvez les répéter 3 fois dans l'année. 315 multiplié par 2000, ça fait 630. 630 multiplié par 3, ça fait 1 890 000. Le tout cumulé des dépenses ne dépasseront jamais 600 000 francs dans l'année. Vous avez un résultat net de 1 280 000. Donc avec 1 280 000, vous avez un salaire minimum de 100 000 francs CFA par mois à partir du sixième mois.
Les dividendes économiques sont évidents. Alors, comment en être bénéficiaire? Est-ce que tout cela s'obtient gratuitement? Écoutons la réponse de Marcel Guiré. Il est le président du jury qui a retenu les 40 premiers bénéficiaires.
Ah non, c'est des microcrédits qu'on va donner. Dans le dossier, il faut mettre 3 témoins. Les microcrédits serviront à l'achat du kit, les 35 poules et puis les 5 coques, à leurs soins vétérinaires et à leur alimentation. Donc un crédit court terme, juste 450 000 pour les soins vétérinaires, l'alimentation, ça se rembourse en une année. Et l'équipement, ça peut aller sur 2 ans. Comme au bout de 3 mois et demi, on peut sortir les coquelets pour les vendre. Et à la vente, il faut penser déjà à commencer le remboursement du crédit.
Le ministre des Ressources animales, qui a présidé la cérémonie de lancement, assure y apporter le soutien de son département. Écoutons le ministre Jean-Paul Rwamba.
En ce qui concerne mon département, j'exprime notre pleine adhésion au programme et je ne ménagerai aucun effort pour le soutenir. Nous espérons que cette opération touchera dans les mois et les années à venir des milliers de foyers au Burkina.
Ravi de se voir bénéficiaire, Sénémaré prend en son compte le proverbe chinois de l'apprentissage de la pêche du poisson. On écoute Sénémaré.
Pour avoir quelqu'un qui va t'aider à faire comme ça, c'est très rare au Burkina. Si vraiment on tient dur, on ne peut pas ne pas réussir dans ça. Hein, parce qu'il ne faut pas apprendre quelqu'un à manger le poisson. Chaque jour, il faut l'apprendre à pêcher.
Le bénéficiaire Sayuba Bamogo se promet d'être digne de la confiance placée en lui.
Mon souhait, bénéficier aujourd'hui, produire demain et partager ça avec d'autres personnes. C'est un grand rêve, mais je vois que ça est en train de s'accomplir. Parce que ce projet va me permettre d'augmenter ma production, d'embaucher d'autres personnes et de réduire surtout la pauvreté en milieu rural.
Zoumana Wonogo, Ouagadougou, VOA Afrique.
Voilà. ainsi va Le Monde aujourd'hui. La mise en onde était assurée par Anna Hudson, au micro Camille Grosdidier. Retrouvez-nous sur Facebook ou encore notre site internet voafrique.com. Et surtout, une très bonne journée.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.